Martin Ia.
Voici Gaïtana, candidate aux prochaines élections législatives en Colombie. Générée par intelligence artificielle, elle défend la cause des communautés indigènes et appelle à cocher la case IA sur le bulletin de vote.
¿Confiarías más en quien promete y traiciona o en una inteligencia artificial que decide contigo?
Pas encore de candidat créé de toutes pièces en France, mais l'IA s'immisce dans la campagne pour les municipales. Sur le marché de Reims, Stéphane Lang n'est pas peu fier de ses tracts vidéo.
Bonjour, je suis Stéphane Lang.
Ça permet d'aller vite, ça permet de concevoir des images moins chères.
Avec l'intelligence artificielle, les possibilités sont multiples. À Chantilly, les réunions publiques de cette candidate sont enregistrées et transformées en fausses émissions de radio présentées par de faux journalistes.
Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans la troisième réunion publique de la liste Chantilly pour la vie.
Un dispositif de campagne comme un autre, selon la candidate.
On précise que c'est fait par l'intelligence artificielle et donc on ne trompe pas sur le sujet.
Mais l'IA génère aussi des propos et des visuels mensongers, comme cette image publiée par une candidate RN pour illustrer la saleté à Strasbourg. Inquiétant, d'autant que selon Ipsos, 30% des Français ont prévu d'utiliser l'IA pour identifier le candidat ou le parti qui correspond le mieux à leurs idées pour les prochaines élections. Une pratique risquée, alerte Emmanuel Macron.
Et là, on va rentrer dans un autre. Parce que moi, je ne sais pas ce que ChatGPT va recommander de voter. Ce que je sais, c'est que les gens qui possèdent ChatGPT, qu'il y a des intérêts qu'il y a derrière, je ne suis pas sûr que ce soit des intérêts démocratiquement neutres.
Alors l'intelligence artificielle peut-elle déstabiliser un scrutin? Est-ce une avancée pratique au service des politiques et des citoyens? Ou faut-il strictement encadrer le recours à l'IA?
C'est un outil qui est de plus en plus déployé par les candidats parce que c'est vu comme une manière de présenter son programme à un public plus large, donc en simplifiant les mesures, en ayant un côté un petit peu interactif. Je pense qu'il y a deux types de chatbots. Il y a ceux qui sont présentés par ces candidats-là, donc qui sont explicitement liés à un candidat, à sa campagne. Quand on s'adresse à lui, on sait ce qu'il défend. Et il y a les chatbots qu'on va utiliser plus quotidiennement, qui vont être les ChatGPT, le chat Mistral, sur lesquels les gens vont peut-être se tourner plus rapidement, mais dont les recommandations sont peut-être plus incertaines, en tout cas plus difficiles à prédire. En tout cas, on ne sait moins dans quel bord, disons, ça peut.
Martin Pavanello, est-ce qu'aujourd'hui, cet usage de l'IA, notamment à travers des chatbots ou d'autres techniques, est-ce qu'il est aujourd'hui assumé de plus en plus par les candidats aux élections, ou est-ce qu'ils ont encore, en quelque sorte, l'IA honteuse?
Plutôt l'IA honteuse, moi je trouve. Il y a quelques profils un peu plus jeunes, souvent. On le voit d'ailleurs dans des candidats un peu jeunes qui disent ben, « Moi, super, je vais attirer grâce à ça, parce que je vais montrer à tout le monde que j'utilise de l'IA, donc que je véhicule un petit peu ces idées-là. » Mais ça reste encore assez embryonnaire. Je pense que notamment sur la partie communication, et on peut aller même plus largement au-delà des candidats, hein, c'est qu'aujourd'hui en France, dire que j'utilise une IA, c'est encore un peu mal vu. Donc est-ce que je dois le mettre en avant quand je suis candidat? Est-ce que ça va m'aider vraiment à gagner une élection? Oui, quand mon électorat est peut-être plus jeune et déjà baigné là-dedans, mais beaucoup moins quand ce n'est pas le cas. Donc c'est la réponse est pour moi plutôt une IA honteuse encore.
Sur cette...
qui, de fait, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on veut faire afficher le fait qu'on fait quelque chose en IA, on fait un chatbot. Oui. Et donc le problème, c'est que les avantages réels sont toujours très discutables, comme vous l'avez dit, et en réalité, c'est juste un effet d'affichage, d'annonce, de fait, et ça ne dit rien du tout, d'ailleurs, du contenu, de la façon dont c'est construit par ailleurs, et de la qualité et de la fiabilité de tout cela, parce qu'on a en affaire à des IA conversationnelles, issues de l'IA générative, donc qui sont une des dimensions de ces systèmes d'IA. Donc il y a bien d'autres choses, et on en parlera tout à l'heure, mais sur la question des gestions, c'est totalement autre chose. Il faut bien... Et les exigences vont être totalement différentes, quoi.
C'est à la fois les coûts et le temps qu'on passe sur une tâche. Typiquement, dans beaucoup de campagnes pour les municipales, des candidats les ont utilisés pour générer des visuels, des rénovations urbaines qu'ils veulent faire. Typiquement, rénover les quais de Seine, on va faire une visualisation par l'IA parce que ça prend littéralement quelques secondes. Après, ça pose la question suivante qui est dans quelle mesure est-ce qu'on a établi les coûts, la faisabilité du projet qu'on présente. Et pour rebondir sur la question de IA honteuse ou pas, ce recours à l'IA ou à un vrai graphiste, c'est aussi un positionnement politique. Typiquement, l'équipe d'Emmanuel Grégoire à Paris me disait qu'ils avaient un usage parcimonieux parce qu'ils savent que l'IA est coûteuse pour l'environnement et voilà, remplace un emploi. Donc utiliser l'IA peut aussi leur être reproché par leurs électeurs.
Il peut croire, pourtant moi je pense que c'est pas le cas. On peut être totalement franc, mais juste pouvoir générer plus d'idées, à minima pouvoir générer plus de contenu avec de l'IA. Et moi je le vois souvent dans la question des municipales, c'est il y a à la fois dans des toutes petites villes des personnes qui n'ont pas d'équipe, qui veulent se présenter à une mairie, mais qui ont une petite équipe. Bah, est-ce que pour autant ils n'ont pas le droit de publier du contenu? Bah si, et ils ont un outil pour ça. Ou alors dans des grandes villes où des petits partis ont peu de militants et se disent j'ai quand même le droit de faire entendre ma voix et utiliser un outil, parce que l'IA, si on l'utilise comme un outil, c'est très bien. Utiliser l'IA comme un outil pour diffuser son contenu et son programme, ça c'est utile.
Beaucoup du terme démocratisé, parce que la question ce serait de se dire qu'on a du coup amélioré le fonctionnement de la démocratie avec les défauts qu'elle peut avoir actuellement. Qu'est-ce qu'on a produit dans ce type de système? On a produit surtout des opérations de communication démultipliées, avec une productivité des opérations de communication, en volume comme en rythme, etc., qui pose un problème. C'est-à-dire, est-ce que l'intérêt c'est d'avoir une IA pour pouvoir produire une affiche nouvelle tous les jours? Bon, je ne sais pas. Vous voyez, donc on a effectivement là une vision de l'IA elle-même, de ces systèmes d'IA génératifs, orientés vers la com et la saturation de l'espace cognitif.
Fut un temps où on n'est pas forcément antidémocratique.
Tout à fait. Un des problèmes de la démocratie contemporaine, ce n'est pas forcément cette abondance de messages qui inondent tout le monde. On voit bien comment le personnel politique gagnerait à se débrancher de temps en temps et arrêter de réagir. Alors que là, on va les encourager. Pardon.
Sauf que... texte ou d'image ou de vidéo, on a des modèles d'IA, alors en effet il faut aller sur des IA plutôt payantes, mais qui sont 100% humaines, en tout cas qui ressemblent évidemment 100% à ce que peut produire un humain. Vous voyez déjà tous les jours à la télé, dans les rues, etc., des affiches, des publicités, sans vous rendre compte que c'est de l'IA. Et même sur le texte, où souvent on se dit, bon, quelqu'un utilise une IA, ça se voit comme toujours. Moi, je peux vous donner 100 textes et vous mettre au défi de trouver quels sont les textes IA ou pas IA. C'est impossible.
Ce qu'on appelle un chargé de com, ça ne fera pas mieux, très clairement.
Exactement. C'est des outils qui sont très, 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 très forts pour copier le moindre style ou la moindre caractéristique de style comme de la manière d'écrire d'un humain. Et donc, si on l'utilise bien, hein, ça fonctionne.
En tout cas, ça a été une première décision du Conseil d'État qui se penchait sur le sujet qui est tombé à l'automne dernier. Il dit que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il y avait donc un candidat qui avait contesté l'élection de son concurrent en disant que dans sa profession de foi, il avait utilisé l'IA. Ce que le Conseil d'État avait examiné, c'est dans quelle mesure est-ce que cet usage a pu influencer le vote. Et c'est là qu'on va entrer dans une zone qui va être assez intéressante et difficile à déterminer, qui est dans quelle mesure est-ce que l'IA a trompé l'électeur et a influencé le résultat final du scrutin.
Justement. Électorale, parce que le principe même des large language models, comment dire, les modèles linguistiques de langage large, grand, qui irriguent tout cela, n'ont aucun principe d'authentification, de validation, de vérification, de vérité, etc. Tout cela, c'est une opération purement statistique. Donc intrinsèquement, il génère de toute façon déjà des hallucinations, et on ne les réduit jamais, malgré tout ce qu'on essaye de faire. Et à partir de ce moment-là, ce ne sont pas des modèles fiables dans des endroits correct, sérieux, industriel, etc. Est-ce que la campagne électorale relève de ça, ou est-ce qu'elle relève d'une opération de communication où on peut se permettre tout, parce que quand on discute avec son chatbot, effectivement, son compagnon, comme on dit maintenant, éventuellement, bon, c'est pas très grave, s'il y a des approximations, etc. Mais ce sont deux mondes vraiment différents, et à ce moment-là, la question du législateur, ce serait effectivement de dire non, les campagnes électorales, on ne plaisante pas avec ça, et on doit, si c'est le cas, et on interdit ce type d'usage. Sachant que le problème, c'est comme c'est effectivement très peu, déjà encadré en tant que principe même, vous aurez du mal à dire, mais dans ce cas-là, c'est pas parce que ce seront des outils que chacun aura sur son laptop, sur son appareil, et puis utilisera discrètement.
Oui, par exemple mentionné, généré par intelligence artificielle sur un site de campagne, ça pourrait être assez facilement encadrable, ce genre
d'opération. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait, effectivement. Il faut effectivement être capable de dire, si on ne fait pas ce genre d'opération-là, on aura une banalisation du fake qui fait qu'on éduque discrètement toute une population à vivre dans le faux. Et donc, on crée des scénarios de méfiance généralisée. Parce que derrière, les gens se fatigueront. Et donc, ne croiront plus à rien du tout.
Océane Herrero pour votre...
Le parti Renaissance qui est en train de travailler sur des règles sur l'usage de l'IA à destination des candidats aux municipales. Mais globalement, c'est très informel à ce stade. Je l'avais dit, mais l'équipe d'Emmanuel Grégoire, c'est plus un principe qu'ils ont diffusé sur quand on va recourir à l'IA.
Il y a des candidats associés, ça mérite Paris. Quand il y a Lyon,
voilà, exactement.
En gros, il n'y a pas de règles communes qui fassent l'unanimité.
En tout cas, par les partis politiques, non, il n'y a pas de règles. Après, on est censé avoir un cadre légal également, avec un règlement européen sur l'intelligence artificielle qui porte ce principe de transparence quand même. Et on voit que les candidats, petit à petit, commencent à appliquer le sigle généré par IA, mais c'est à ce stade pas du tout normalisé dans l'usage.
On va remonter. Qui, selon toutes les statistiques à peu près honnêtes, font gagner une heure et demie de temps par jour à toutes les personnes qui l'utilisent. Du temps et de la qualité sur tout un tas de tâches. Donc que ce soit dans la relation avec les habitants de la commune, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants de leur commune qui, quand ils déposent un permis, n'ont pas accès aux informations, ne comprennent pas comment faire, etc. Leur donner accès à des outils d'IA, c'est de démocratiser un peu ces savoirs-là. Donc vers l'habitant, c'est sûr, mais en interne, au sein d'une mairie même, faire gagner en productivité aux agents, faire des économies d'échelle, etc. Ça commence à arriver déjà dans les entreprises depuis 3 ans, hein, et ça commence aussi à arriver dans les collectivités. On est tous les jours contactés par des collectivités qui nous disent « on veut gagner 10% de productivité ». Ça, c'est un super outil pour le faire.
Dans les services publics, ça pose des questions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on l'interprète? Quelle est la qualité du service qu'on évalue au bout du compte? Or, ces systèmes-là, ces systèmes d'IA, de ce type-là, génératifs, pas les autres. Il y a des systèmes comme les systèmes d'information
géographique. Il faut faire des économies, selon vous, ou pas?
Non, alors le problème, c'est ça, c'est qu'en réalité, vous passez un temps fou à corriger tout ce qui va être, puisque vous ne pouvez, ce ne sont pas des systèmes fiables. Il faut bien s'en rendre compte, ça. Dans les industries, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont un problème, toutes les entreprises d'IA, c'est que ça ne marche pas très, très bien comme adhésion de la part des grosses entreprises, parce qu'en des grandes entreprises en général. Pour des tâches de communication, très bien, OK. Mais pour le reste, des vrais process qui demandent de la fiabilité, c'est pas possible. On ne peut pas s'appuyer sur des choses comme ChatGPT. Donc ça veut dire que derrière, vous aurez effectivement tout un travail de reprise en main qui va demander du temps. C'est pas hasard si toute l'époque des smart cities, on a eu 10 ans à peu près
les villes intelligentes.
Les villes intelligentes, effectivement. Google s'est planté à Toronto. IBM a fait Rio et n'a pas réussi à en vendre d'autres. Et tous les systèmes doivent revenir en réalité à d'autres types de combinaisons avec des IA qui sont les anciennes IA, qui sont ce qu'on appelle les IA symboliques, où les experts jouent un rôle. Sinon, rien de fiable ne fonctionnera. Donc, je pense qu'il faut que les administrations et les collectivités locales soient très vigilantes là-dessus, sinon elles vont dans le mur.
Vous êtes d'accord?
C'est pour ça que nous on pousse à la formation, c'est de dire en fait, il faut vraiment apprendre. On a appris à utiliser un ordinateur, on a appris à utiliser Internet, et là, beaucoup, certains nous disent, mais l'IA, il n'y aura pas besoin. Il y aura besoin, comme le reste.
Sinon, il va falloir embaucher des gens qui corrigent les erreurs commises par l'IA qui ont remplacé d'autres personnages.
Fait, quand vous le déployez vraiment et que vous mettez le nez dans une vraie organisation qui a vraiment déployé l'IA, vous vous rendez compte que les erreurs de l'IA, c'est 3% de ce qu'elle fait. Bon. Le reste du temps, on lui demande de comparer des DCE, on lui demande de créer des BPU, on lui demande d'analyser des choses comme ça. Et là-dessus, le taux d'erreur est vraiment infime et on fait des gains de productivité. Je préfère dire 10%. Aller voir un service marché dans une grande collectivité, c'est pas 10% le gain de productivité, c'est 50%. Donc là-dessus, il y a des vraies choses.
On ne mettra pas d'accord.
Il existe quand même sur le fait que ces systèmes-là ne sont pas fiables. Il faut être très prudent parce qu'on met le doigt dans quelque chose qui, sur des systèmes critiques, en termes de systèmes urbains, c'est des systèmes extrêmement complexes. Et si on n'est pas capable de s'appuyer sur les savoirs d'experts et de mettre la boucle, ça veut dire réorganiser les choses avec ces experts. Sinon, effectivement, le système. Ce qui ne veut pas dire pour ça, pas utiliser de l'IA, mais de l'IA en cadré par le savoir des experts.
Surtout, évidemment, l'IA, il faut savoir l'utiliser pour en tirer les bénéfices. Le sujet, c'est quand on la déploie en tant que collectivité auprès du public. Factuellement, tout le monde ne va pas savoir l'utiliser. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les usagers aient un usage courant et clair de l'IA. La défenseure des droits, Claire Hédon, a notamment alerté sur ça et sur la nécessité d'avoir toujours un contact physique. Risque qui est extrêmement pris en compte par les autorités. Là, c'est un petit peu un galop d'essai, hein, le municipal, parce qu'on voit tout le monde expérimenter, mais les usages malicieux, les tentatives de décrédibiliser des candidats, c'est quelque chose qu'on risque de voir à puissance 10 lors des élections de l'élection présidentielle l'année prochaine.
Aussi un système des réseaux sociaux. Comme le but, c'est de générer de la réputation, de la visibilité, c'est l'ensemble du système qui engendre finalement cette viralité qui, si elle s'impose dans le débat public, est toxique. Donc c'est clair que là, on va avoir tendance à l'utiliser, mais les effets seront effectivement, ouvriront la porte à beaucoup de stratégies d'influence.
Merci.